France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le bilan dépasse désormais les 100 morts au moins en Chine à cause du coronavirus. Près de 4000 personnes sont par ailleurs contaminées. Le gouvernement chinois a donc décidé de reporter le début du deuxième semestre dans les écoles et les universités sans préciser de date. Par ailleurs, l'évacuation se prépare pour les Français qui habitent à Wuhan, foyer de l'épidémie en Chine. Ce rapatriement est prévu en milieu de semaine et pourrait concerner d'autres pays européens. L'Allemagne vient d'annoncer cette nuit avoir identifié un premier cas en Bavière. Cette fois, c'est pour de bon. 27 chefs de service de l'hôpital Robert Debré à Paris démissionnent. Ils menaçaient de quitter leurs fonctions administratives depuis la mi-janvier si le gouvernement ne répondait pas à leurs attentes, à savoir plus de moyens pour l'hôpital public et des hausses de salaire pour les infirmiers et les aides-soignants. Ces médecins démissionnaires préviennent, si la ministre de la Santé Agnès Buzyn ne réagit pas, ils ne s'arrêteront pas là. Hier d'ailleurs, une cinquantaine de médecins et de chefs de service au CHU de Rennes avaient également mis leur menace à exécution. Ils avaient démissionné hier. À moins de 2 mois du premier tour des élections municipales, le ministre de l'Action et des Comptes Publics entre officiellement en campagne pour la ville de Tourcoing dans le Nord. Gérald Darmanin annonce dans La Voix du Nord qu'il mènera la liste. Il avait déjà été maire de Tourcoing entre 2014 et 2017. À son entrée au gouvernement, Gérald Darmanin était resté premier adjoint de Tourcoing. Loin des polémiques pour les municipales et sur une éventuelle candidature au Havre, le Premier ministre Édouard Philippe, lui, était hier à Auschwitz en Pologne pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp. Moment de recueillement auprès de 200 survivants et d'autres dirigeants. Précisons enfin cette menace du groupe État islamique. Daesh déclare viser Israël en faisant de l'État hébreu la cible d'une nouvelle phase de son djihad. L'organisation lance cet appel alors que Donald Trump doit présenter aujourd'hui son plan de paix pour le Proche-Orient.
Du 7 au 16 février, 30e édition du Festival Présence 2020, Festival de création musicale de Radio France consacré au compositeur anglais George Benjamin. 18 concerts, 80 œuvres, 24 créations mondiales, 11 créations françaises, 60 compositeurs, plongés au cœur de la création. Informations et réservations, maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Tous les mardis, c'est l'actualité des expositions et aujourd'hui plein feu sur les affiches cubaines que le Musée des Arts Décoratifs de Paris expose en ce moment. Une belle manière de plonger dans le design graphique cubain entre propagande imposée et grandes audaces artistiques. Pour nous en parler, ce matin, mon invité, la commissaire de l'exposition, Amélie Gasteau.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Après la révolution à Cuba, le Musée des Arts Décoratifs de Paris dévoile jusqu'au 2 février L'âge d'or de l'affiche cubaine, celle des années 60 et 70 particulièrement. L'exposition Révolution et Cinéma permet de découvrir à travers 300 affiches l'éclosion de cette grande école d'affichistes cubains qui va évoluer avec l'histoire du pays, bien sûr, mais pas seulement. Bonjour, Amidi Gasto.
Bonjour.
L'évolution se fait aussi avec tous les courants artistiques.
Oui, alors effectivement, tous ces affichistes cubains qui créent vraiment une école de l'affiche cubaine à ce moment-là vont aller puiser leur inspiration dans tous les courants les plus contemporains qui se développent. Entre autres aux États-Unis, puisque beaucoup vont regarder du côté du pop art, de l'optical art, du psychédélisme, mais aussi d'autres iront regarder du côté plutôt polonais, dans la tradition de l'école de l'affiche polonaise.
Alors, ce qui donne donc une école très libre, paradoxalement libre, je dirais, on va bien sûr parler du contexte politique, ou on va carrément commencer par parler du contexte politique qui va d'ailleurs être assez étrange parce que Castro va quand même refuser de s'aligner sur ce qui était à l'époque à la mode dans le bloc soviétique, c'est-à-dire un art pompier qui caractérisait les régimes socialo-communistes.
Oui, alors effectivement, Fidel Castro
veut développer une affiche à la cubaine.
Veut développer une école de l'affiche cubaine qui se définit à la fois contre l'esprit des agences de publicité américaines qui, depuis le 19e siècle, étaient implantées à Cuba et imposaient un style dans l'affiche venant des États-Unis. Et en même temps, il n'impose pas le diktat de ce qu'on les pays communistes alors imposaient dans l'affiche, qui était l'esthétique du réalisme socialiste, c'est-à-dire une affiche qu'on appelait bras levés, influencée par le constructivisme, où il fallait que les affichistes répondent presque à des normes graphiques imposées. Non. Fidel Castro laisse une totale liberté aux affichistes de l'époque qui...
Pour la forme, hein.
Pour la forme, ouais. Pour la forme. En fait, Castro avait une phrase, pour la révolution, tout, contre la révolution, rien. Dès lors qu'on ne critiquait pas la révolution, formellement, on était absolument libre, en tout cas dans le domaine de l'affiche, de faire référence au pop art, à l'optical art, en tout cas aux grands mouvements occidentaux.
En tout cas, l'affiche est très présente donc à Cuba. C'est bon de rappeler qu'en 1961, un certain Che Guevara, alors ministre des Industries, je crois, interdit donc l'affiche publicitaire. L'affiche publicitaire, elle est bannie. Et donc, ça devient un espace pour les créateurs. Alors, bien sûr, c'est des affiches de propagande politique, mais c'est aussi et beaucoup d'affiches de cinéma ou pour annoncer des événements culturels.
Oui, alors effectivement, Che Guevara est nommé en 1961 ministre de l'Industrie et après cette période de nationalisation où qui a touché aussi le monde de la publicité, puisque comme je le disais, les agences de publicité qui étaient présentes sur l'île depuis la fin du 19e siècle étaient des agences nord-américaines. Donc Che Guevara, ministre de l'Industrie, interdit l'affiche publicitaire. Il faut dire aussi que le blocus faisait qu'il y avait aussi beaucoup moins de raisons que l'affiche publicitaire qui vantait des produits de consommation
qu'on ne trouvait plus, du
existe.
Coup.
Voilà. Donc l'affiche à ce moment-là sera politique et culturelle. Et au niveau culturel, surtout cinématographique.
Alors, cette grande exposition balaye toute la période révolutionnaire de Cuba. C'est de 1959 jusqu'à 2019, avec quand même un focus sur l'âge d'or, parce qu'il y a eu un âge d'or, les années 60-70.
Oui, effectivement, l'âge d'or de l'affiche cubaine va être relativement court, puisque ça va durer 20 ans, puisque ça commence en 1959 arrivée de Castro au pouvoir. Et à la fin des années 70, ça va commencer à décliner. Il va avoir une bureaucratisation qui va être de plus importante et qui va freiner quand même tout cet élan créatif. Et à partir du milieu des années 80 et après la chute de Berlin en 89, effectivement, là, il va avoir un arrêt de la production d'affiches cubaines.
Alors, les affiches qu'on peut voir en ce moment au MAD, vos propres affiches appartiennent à votre collection.
Oui, alors en fait, j'ai découvert ce fonds d'affiches cubaines qui n'avait jamais été exposé et qui était pourtant dans nos collections depuis 1979 grâce à une généreuse donatrice qui devait, dont on a eu très peu d'informations, qui s'appelait Gisèle Michelin et qui devait être une de ces intellectuelles. Elle travaillait, si les quelques informations que j'ai collectées, elle travaillait dans les galeries d'art, et je pense qu'elle devait aller à Cuba et elle a ramené à peu près 350 affiches qu'elle a donné en 79 au musée des arts décoratifs et qui n'avait jamais été présentée.
Alors ce sont des pièces rares et ce sont aussi des pièces très très cotées. Je ne sais pas si vous le savez, Amélie Gasteau, mais l'été dernier, dans un magasin new-yorkais à Chelsea, j'ai essayé d'avoir quelques affiches cubaines de cette période-là, l'âge d'or, hein, une affiche cubaine qui annonçait un cycle John Ford à la Cinémathèque algérienne, et puis la fameuse affiche Libérée Angela Davis. Mm-hmm. Et ben j'ai vu que c'était les affiches qui étaient les plus chères, donc plus rares, très cotées. On est effectivement surpris par la beauté de ces affiches et surtout par les couleurs.
Oui, alors une des spécificités, des caractéristiques de l'affiche cubaine, c'est effectivement cette technique d'impression qui est de la sérigraphie et que les affichistes cubains ont su exploiter pleinement et qui permet comme ça des rendus de couleurs avec des grands aplats et une couleur très pure. Et les Cubains ont su exploiter, malgré les contraintes économiques et parce qu'il y avait des pénuries, la possibilité de ces ancrages, puisque par exemple Angela Davis, c'est une affiche de Félix Beltrane, bicolore, bleu et rouge, probablement parce que à ce moment-là, et Félix Beltrane le dit, il n'y avait dans l'atelier de sérigraphie que de bleu et du rouge. Donc cette contrainte économique dû au blocus
ne les a pas empêchés de réaliser quelques très 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 belles affiches que vous exposez donc au musée des arts décoratifs à partir d'un circuit qui commence d'abord par une première série d'affiches de figures héroïques de la Révolution, évidemment, telles que Fidel Castro et telles que Che Guevara.
Oui, alors la première partie de l'exposition s'intéresse à l'affiche politique et qui était imprimée, enfin commanditée par la Commission d'organisation révolutionnaire, qui était une institution que Fidel Castro a mis en place dès son arrivée et qui avait pour mission de propager les idées de la Révolution à l'intérieur de l'île. Et effectivement, nombreuses de ces affiches mettent en avant les événements importants de la Révolution et ces héros étant Fidel Castro, Che Guevara, mais aussi quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu moins et qui a été un barboudos extrêmement important, Camilo Cienfuegos. Beaucoup d'affiches le représentent, mais aussi une figure un peu moins connue, qui est le José Martí, le père de la de l'indépendance cubaine à la fin du 19e siècle, que Castro a érigé en héros national et dont il se revendiquait. Donc énormément d'affiches présentent José Martí.
Et si on parlait justement de cette affiche délirante, psychédélique de Che Guevara?
L'affiche, c'est une affiche, l'affiche de Che Guevara, qui a été dessinée en 1969 par Alfredo Rosgar, un grand maître de l'affiche cubaine, qui était le directeur artistique de l'organisation de Solidé pour les peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Et c'est une affiche donc qui vient de l'Ospal et on voit un Che Guevara totalement psychédélique, dont l'étoile qu'il avait sur son béret vient comme ça irradier la silhouette de Che Guevara dans un arc-en-ciel totalement psychédélique.
Voilà, une affiche à retrouver à la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr, parmi quelques autres affiches que nous avons sélectionnées pour parler de cette exposition. Il y a aussi toute une partie, bien sûr, consacrée au cinéma, c'est-à-dire au cinéma cubain, mais pas seulement, au cinéma international.
Oui, alors, parce que l'autre grande institution, ou la grande institution culturelle que Fidel Castro met en place dès son arrivée, c'est l'ICAIC, l'Institut cubain d'art et d'industrie cinématographique, dès 1959, et qui avait une double mission, à la fois de produire des films et beaucoup de documentaires cubains qui mettaient surtout en
avant, on va dire, voilà,
la révolution, les idées de la révolution, mais pas que. De la même manière qu'il permettait une grande liberté formelle, Fidel Castro permettait à l'ICAIC de recevoir des films du monde entier, des films de la nouvelle vague française, du nouveau réalisme italien, beaucoup de films de Hitchcock, parce que Cuba était avant Fidel Castro et encore un pays de grands cinéphiles. Et quand Castro arrive en 59, Cuba, il y a à peu près 450 salles de cinéma à Cuba, plus de 100 à La Havane. Et Fidel Castro pense que le cinéma est le moyen d'éducation et culturel qui peut parler au plus grand nombre de personnes, à la population entière de Cuba.
Mais que racontent les affiches ? Moi, je suis très étonné. Par exemple, si on prend cet exemple incroyable, exemple, l'affiche cubaine du film de Francesco Rossi, L'affaire Mattei, eh ben, c'est Superman qui est représenté. Superman complètement ridiculisé, il faut le dire, puisqu'il est, on voit très bien ses sponsors, ce sont des multinationales.
Oui, alors effectivement, il y avait une grande liberté formelle ici, par exemple, l'utilisation de l'esthétique pop art, mais il y avait une grande liberté de ton. Et dans les affiches de cinéma, ce qui réunit en fait tous ces créateurs, c'est le fait de rompre avec les codes de l'affiche de cinéma telle qu'elle était imposée jusqu'alors, entre autres par les agences américaines, c'est-à-dire le portrait de l'acteur principal.
Ou une scène de film. Là, ils s'affranchissent de toutes ces obligations commerciales.
Ils s'affranchissent de toute obligation commerciale et pour en fait donner une libre interprétation du film qu'ils avaient vu. Ils se réunissaient, ils regardaient les films tous ensemble, tous les graphistes du bureau de design graphique de l'ICAIC, et à la fin, en ressortait une libre interprétation du film.
Bien entendu, là, on voit qu'il y a aussi une influence des comics américains sur l'art graphique cubain. Si on parlait maintenant des couleurs, parce que c'est un festival de couleurs vives, pastels, que cette exposition consacrée aux affiches cubaines. Avec donc ces affiches, je vous recommande aussi l'affiche par exemple du film de Costa Gavras, Z. Et là par exemple, elle est très simple cette affiche. Le Z, il est en bleu avec un reflet rouge, tout ça sur fond blanc. Cette manière de choisir ces couleurs-là, ça répondait à quel besoin ?
Alors ça c'est une affiche qui date de 2009 de Nelson Poncet, donc de la nouvelle génération, parce qu'on voit apparaître depuis quelques années une nouvelle génération de graphistes qui s'inscrivent dans les pas de leur père, et avec, encore une fois, ils reprennent cette technique d'impression qu'on trouve à Cuba, on trouve pratiquement que ça, une impression en sérigraphie, et qui permet comme ça une explosion de couleurs avec des grands aplats et des couleurs extrêmement franches.
Oye, cómo suena. quedan uno por uno, porque Cuba es un montuno vestido de guayabera.
Oye, cómo suena mi montuno,
montuno.
Oye, cómo suena mi montuno.
A mí me gusta el montuno.
Oye, cómo suena mi montuno.
Lo mismo lo bailan dos que lo baila uno.
Oye, cómo suena mi montuno.
Yo te pinto un cuadro al óleo.
Oye, cómo suena mi montuno.
Les affiches cubaines au musée des arts décoratifs Révolution et Cinéma de 1959 à 2019. Donc, on parle bien sûr de l'âge d'or des affiches. Amélie Gasteau, j'espère qu'on aura le temps de parler de la nouvelle école. Mais s'il fallait effectivement déambuler avec vous et à travers les 300 affiches exposées, il y a tous les courants d'art de la deuxième partie du 20e siècle qui sont représentés soit directement, soit par petites touches.
Oui, alors on trouve l'influence des courants modernistes et fonctionnalistes, par exemple, avec les très belles affiches de Félix Beltrán dans les années 60 pour la commission d'orientation révolutionnaire. On trouve des influences plutôt psychédéliques, avec même des couleurs orangées qui contrastent avec des rouges ou des marrons, et une typographie aussi. Alors c'est l'affiche cubaine est surtout une affiche figurative de l'illustration, mais par exemple dans les affiches de Fernando Rebollo, qui est très influencé par l'esthétique psychédélique, on retrouve aussi l'utilisation d'une typographie qui se développe pendant ces années-là. Quelqu'un qui se démarque alors de l'explosion de couleurs, c'est le graphiste René Ascuy, qu'on appelait Ascuy le Negro, parce qu'il a une affiche uniquement en noir et blanc, et c'est un des rares qui part de la photographie et sûrement a regardé un graphiste polonais qui a fait toute sa carrière en France, qui s'appelait Roman Sislewicz, et donc une des affiches qui part de la photo très contrastée, où la trame devient motif et où les cadrages effectivement sont très audacieux. Et il y a peut-être le père de l'affiche cubaine, Eduardo Muñoz Bache, qui est le premier à avoir travaillé pour l'ICAIC et qui pour l'ICAIC réalisera plus de 2000 affiches, et qui lui est directement influencé par là plutôt une tradition de l'école de l'affiche polonaise, qui mélange à la fois noirceur et poésie dans un style illustratif qui aussi fait penser au dessin, à la naïveté des dessins pour enfants, et c'est comme ça qu'il finira sa carrière.
Oui, d'ailleurs la bande dessinée, et particulièrement les comics américains, sont une des influences de ces affiches cubaines. Toutes les affiches cubaines que vous exposez en ce moment au musée des arts décoratifs Révolution et Cinéma, ce sont des affiches qui ont eu une existence à Cuba, c'est-à-dire il n'y a pas d'affiches interdites que vous avez pu exposer. Toutes ces affiches ont eu leur vie cubaine.
Toutes ces affiches ont eu leur vie cubaine. Certaines, alors je pense par exemple à celle du graphiste Osmani Torres, qui date de 1999 et qui est une réinterprétation d'un des grands films cubains, Mémoire du sous-développement de Gutiérrez, et qui en 99 en donne une nouvelle interprétation où il met en avant le drapeau cubain, mais la croix qui vient blanche qui vient se dessiner sur la partie rouge du drapeau cubain, tout d'un coup là dans l'affiche de Torres évoque le logo de la marque Chevrolet, et donc cette affiche a existé mais a eu une existence assez courte.
Alors que deviennent les affiches interdites par le régime cubain? Parce que je suppose qu'il y a eu des affiches qui ont dû être interdites, je suppose seulement, ouais.
Dans celles que nous avons dans les collections, aucune n'a été interdite, et je pense que si elle devait être interdite, elle n'aurait même pas été imprimée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Enfin, pour terminer cette exposition, met en valeur quand même quelques artistes avec leur nom, leur parcours. Que sont devenus ces artistes de l'âge d'or de l'affiche cubaine des années 60-70, Amélie Gastaud ?
Pour beaucoup, ils ont fini leur carrière hors de Cuba. Beaucoup sont partis au Mexique essentiellement, puisque à la fin des années 70, quand il y a commencé à avoir une déjà moins de commandes et une censure aussi qui commençait à apparaître, ils ont pour la plupart sont partis de Cuba, sont devenus pour la plupart enseignants dans des universités au Mexique. Et finalement, à part Nico qui continue à avoir une production en tant qu'affichiste, les autres ont plutôt eu une fin de carrière universitaire.
Voilà, alors la France leur rend hommage. Est-ce que quelque part dans le monde, ces artistes sont connus, reconnus pour leur talent d'affichiste ?
Ils sont reconnus, mais il est vrai que c'est une école, l'affiche cubaine, qui a été très peu montrée, aussi à cause de l'isolement de Cuba. Et c'est vrai que même dans les livres sur l'histoire du graphisme ou l'histoire de l'affiche, c'est souvent une école manquante, et j'espère que cette exposition pourra la remettre en avant.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Si vous êtes parisien, parisienne, ou si vous êtes de passage par la capitale, n'oubliez pas de consacrer un peu de votre temps pour voir cette excellente exposition au Musée des Arts Décoratifs. C'est jusqu'au 2 février, affiche cubaine, révolution et cinéma 1959-2019. Et on peut le dire, Amélie Gastaud, il y a un très très beau catalogue avec une centaine d'affiches de l'exposition.
Oui, j'étais ravie de faire ce catalogue qui présente en pleine page, sans affiches, de nos collections, et très beau catalogue dont les graphismes sont Brest, Brest, Brest.
Vous êtes aussi la commissaire de cette exposition, Amélie Gastaud. Merci d'être passée ce matin. Cette émission a été préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Pierre Monteil. On se retrouve demain à la même heure, et demain c'est mercredi, on parlera cinéma. Bonne journée.
Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'armée rouge ouvrent les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau et libèrent les déportés survivants. En avril, les soldats américains libèrent le camp de Buchenwald. Le monde découvre alors l'existence des camps d'extermination nazis. Jusqu'au 30 janvier, France Culture consacre une programmation exceptionnelle au 75e anniversaire de la libération des camps. Rendez-vous dans vos émissions Les Matins, Le Cours de l'Histoire, La Grande Table, Le Temps du Débat, Une Histoire Particulière. Il y a 75 ans, la libération des camps, à retrouver sur franceculture.fr.
Informer, témoigner, décrypter, Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
La France face à ces djihadistes, ces jeunes Français décidés à combattre la France, qui sont-ils ? Quelle attitude ? Adopter face à eux, on en parle ce mardi dans Les Matins avec le sociologue Hugo Micheron et l'avocate Marie Dauzé.
Les Matins de France Culture, ce mardi, dès 7h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, se mobilisent pour évacuer leurs ressortissants de Wuhan, épicentre du coronavirus chinois. Le bilan dépasse désormais les 100 morts en Chine. Donald Trump joue le suspense sur son plan de paix pour le Proche-Orient. Il le dévoilera en fin d'après-midi tout à l'heure, mais il a déjà reçu à Washington les représentants israéliens. C'est sur eux qu'il mise pour faire accepter son plan, vous l'entendrez. Et puis nous vous expliquerons la baisse d'impôt sur le revenu attendue ce mois-ci en France. Les classes moyennes sont les plus concernées. L'épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine devrait faire au bas mot des centaines de milliers de malades et elle va durer plusieurs mois dans le meilleur des cas. C'est ce qu'estiment ce matin des experts en épidémiologie sur la base des premières données disponibles. En Chine, le virus a déjà tué 106 personnes, près de 4500 autres sont contaminés et les vacances scolaires sont allongées pour éviter la propagation de l'épidémie. En France, maintenant, le ministère de la Santé cherche à rassurer. Il n'y a pas de nouveaux cas. Le nombre de patients avérés reste à 3, 2 à Paris, 1 à Bordeaux. Les personnes avec lesquelles ils ont été en contact font toujours l'objet d'un suivi. Et le gouvernement organise en ce moment le rapatriement des Français installés à Wuhan, le centre de l'épidémie en Chine, Céline Autain.
Jusqu'à 500 Français déclarés auprès des services consulaires pourraient bénéficier d'un vol direct depuis Wuhan. Dans les faits, certains sont en vacances ou en déplacement hors de la ville. D'autres encore ne souhaitent pas rentrer en France. Et le gouvernement n'exclut pas de rapatrier des Européens, car la France est le seul pays de l'Union à disposer d'un consulat à Wuhan. Si le nombre de rapatriements n'est donc pas encore fixé, le suivi des passagers, lui, est rigoureusement préparé. Une surveillance par des médecins et des infirmières dans l'avion et à l'arrivée deux possibilités. Pour ceux qui sont malades, direction l'un des 36 centres infectieux présents sur le territoire. Pour les autres, une période de quarantaine obligatoire, 14 jours, la durée normale d'incubation du virus. Un suivi effectué dans un établissement non médical, à l'écart des flux de population, mais suffisamment proche d'un centre de soins. La France, rappelle le ministère de la Santé, a l'habitude de gérer des maladies infectieuses contagieuses. Le but, en rapatriant ces Français, c'est d'isoler les porteurs potentiels du virus et de prévenir une épidémie sur le territoire.
Et le gouvernement vient de communiquer le numéro du centre de crise et de soutien destiné justement aux ressortissants et à leurs familles. Il s'agit du 01 53 59 11 00. À l'instant, par ailleurs, on apprend que le Japon envoie un avion à Wuhan pour ses ressortissants. C'est à midi, heure de Washington, 18h, heure française, que Donald Trump dévoilera aujourd'hui les grandes lignes de son plan américain pour la paix au Proche-Orient. Alors que le processus de paix est au point mort depuis 2014, le gendre du président, Jared Kushner, qui lui sert aussi de conseiller, travaille sur ce plan depuis 3 ans. Hier, Donald Trump a reçu dans le bureau ovale le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que le chef de l'opposition israélienne Benny Gantz pour les informer du contenu de ce plan sur le volet politique. Et dans la foulée, le président américain a pris la parole.
Le premier ministre Netanyahou est un grand ami à moi. Et un ami des États-Unis. On a une relation formidable depuis 3 ans. Et de notre côté, nous avons fait beaucoup pour Israël. Ce plan de paix, je crois que Bibi et son opposant Benny Gantz vont l'adorer. Et oui, il l'aime beaucoup. C'est un plan très important pour la paix dans tout le Moyen-Orient. Il faut que les Israéliens et les Palestiniens fassent la paix afin qu'elle s'installe dans toute la région. Ça fait des années que des gens travaillent là-dessus. Je crois qu'on est assez proche d'un résultat, mais il faut que les autres soient d'accord aussi.
Les autres, comprenez surtout les Palestiniens qui semblent réticents avant l'annonce et qui n'ont pas été convoqués à Washington. Les propos de Donald Trump étaient recueillis et traduits grâce à notre correspondant Grégory Phillips. Pendant ce temps, à Washington également, se trouvait hier la ministre française des Armées, Florence Parly. Elle s'est efforcée de convaincre son homologue américain, Mark Esper, de ne pas priver la France d'un soutien essentiel, dit-elle, dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Les États-Unis souhaitent en effet réorienter les moyens consacrés depuis 2 décennies maintenant à la guerre contre le terrorisme pour faire face, disent-ils, aux menaces constituées par la Chine et par la Russie. Dans 3 jours, le Royaume-Uni sortira symboliquement de l'Union européenne. Les parlementaires l'ont voté sur proposition du Premier ministre Boris Johnson. Cela se fera donc le 31 janvier. Boris Johnson qui entend bien reprendre sa liberté de négocier avec le grand allié américain, tout en gardant dans le même temps un pied dans le marché unique européen. Un grand écart qui inquiète les eurodéputés. Ils vont d'ailleurs surveiller de très près les futures négociations commerciales avec un objectif premier, éviter tout dumping social, fiscal ou environnemental, Angélique Bouin.
Aucun Européen ne veut dans son assiette de poulet chloré américain et pourtant, il y a un risque, affirme Pascal Canfin. Une fois importée, la volaille peut être désossée, mise en barquette et tamponnée produit britannique. Il faudra être très vigilant et totalement transparent sur les contrôles, insiste le président de la Commission Environnement au Parlement européen.
Le risque, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni signent un accord commercial qui ferait que le poulet qui ne respecterait pas les normes européennes arriverait massivement au Royaume-Uni et qu'ensuite on ait du mal à contrôler son passage du Royaume-Uni au continent européen, sachant qu'une fois qu'ils sont en Irlande, ils sont considérés comme dans le marché unique européen et donc ensuite on ne les contrôle plus.
Et pour l'éviter, il faut établir des règles du jeu précises avec Londres mais aussi entre Européens, ajoute-t-il. Éviter par exemple qu'un port belge ait moins de contrôleurs que son voisin néerlandais, sous peine de voir les bateaux britanniques choisir le moins regardant. S'assurer également que Londres accepte de faire évoluer sa réglementation dans le temps au même rythme que les futures normes européennes, ce qui n'est pas gagné. Autre enjeu, maintenir l'unité des 27 car les priorités divergent. Pêche et sécurité alimentaire sont essentielles pour de nombreux États, dont la France. À l'Est, l'important ce sont les biens industriels. Au Luxembourg, les services financiers.
Et je précise que le secrétaire américain à l'agriculture a appelé hier les Européens à réexaminer leur décision d'interdire les importations de poulet chloré et de bœuf aux hormones, au moment où Bruxelles et Washington cherchent à décrisper leurs relations commerciales. Il est candidat pour être maire de Tourcoing. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, se présente comme tête de liste dans la ville du Nord. Cela pourrait signifier à terme son départ du gouvernement pour celui qui a déjà été maire de Tourcoing, je vous le rappelle, entre 2014 et 2017. Gérald Darmanin qui se targue par ailleurs de faire baisser l'impôt sur le revenu pour 17 millions de foyers français. C'était l'une des promesses apportées par le gouvernement à la crise dite des Gilets jaunes l'année dernière. Une baisse de l'impôt donc, visible ce mois-ci pour 95% des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. L'impact toutefois sera bien différent en fonction des situations, Anne Langemet.
La cible principale du gouvernement, ce sont les classes moyennes. Selon des projections présentées par l'exécutif, les ménages percevant entre 20 000 et 25 000 euros par an seront ainsi ceux qui verront le plus l'impact sur leur fiche de paye. Dans le détail, Bercy annonce une baisse moyenne de 350 euros par an pour ceux qui sont situés dans la première tranche à 14% actuellement. Ceux situés dans la tranche à 30% bénéficieront eux plutôt d'une réduction de 180 euros. C'est toujours une moyenne. Alors les contribuables concernés ont déjà reçu un mail de la direction des impôts. Leur taux de prélèvement à la source a été mis à jour et transmis aux entreprises ou organismes concernés. Avec une application ce mois-ci donc pour une grande majorité de contribuables, estime-t-on au ministère du budget, environ 80% des cas. Certaines entreprises ont même appliqué ce taux dès le mois dernier. D'autres attendront en revanche le mois prochain pour le faire. Il y aura ensuite une régularisation. Elles ne sont pas dans l'illégalité puisque dans tous les cas, Bercy donne 2 mois aux employeurs pour appliquer un changement de taux. Mais ce retard pourrait atténuer la portée de ce geste fiscal alors que le gouvernement entend bien, lui, enfin gagner en popularité grâce à cette politique ciblée sur le pouvoir d'achat.
Une politique qui coûte 5 milliards d'euros à l'État français. Le Conseil d'État confirme l'annulation du plan social de GMES de 2017. Cette décision donnée hier ouvre la voie à une meilleure indemnisation des salariés dans ce dossier social qui avait empoisonné les premiers mois de la présidence d'Emmanuel Macron. L'usine GMES de la Souterraine dans la Creuse avait été reprise pour 1 euro symbolique en septembre 2018 avec 120 emplois conservés sur 277. Le temps ce mardi sera très agité, avec beaucoup de vent, des averses sur quasiment tout le pays, des orages même sur la Normandie ce matin. Seules les côtes de la Méditerranée seront épargnées par la pluie. Pour les températures, il fait ce matin 5 degrés à Lille et à Paris, comptez 7 à Strasbourg et Rennes, 9 degrés à Lyon et Bordeaux, 12 à Marseille, 13 degrés dans la matinée à Biarritz et sur la Corse. Un point enfin sur la grève à Radio France qui entre dans son 57e jour ce mardi. La direction de Radio France négocie avec les syndicats l'ouverture d'une procédure alternative au plan de départ volontaire. 4 syndicats sur 6 l'ont validé vendredi dernier, alors que les antennes du groupe continuent à être perturbées.
En raison d'un appel à la grève émanant de la CGT Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Thank you. Vous écoutez France Culture.
Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
Il est 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux et ce matin, le coronavirus qui met une nouvelle fois à l'épreuve la gouvernance de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, se montre prudente dans cette crise en se refusant pour l'instant à la caractériser comme urgence de santé publique de portée internationale. C'est la qualification qui déclenche un processus très spécifique de réunion régulière et de surveillance des données et qu'elle n'utilise qu'avec parcimonie. L'OMS justifie cette précaution sur la base de données épidémiologiques. Pour l'instant, même si le nombre de personnes que cette pneumonie virale a tuées est passé à 106 cette nuit sur plus de 4500 contaminés, le virus ne semble pas enclin à muter. Mais la réputation de l'OMS la dessert. Elle a été très critiquée par le passé dans sa gestion notamment des crises liées au virus Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest et l'année dernière en République démocratique du Congo. Alors a-t-elle entrepris les réformes en son sein promises depuis longtemps? On en parle ce matin avec vous, Paul Ben Ki-moon, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin, journaliste à la rubrique médecine du journal Le Monde. Alors d'abord, pour bien comprendre la nature du lien entre l'OMS et ses pays membres, 193, quand son président Tedros Adhanom Ghebreyesus se rend en Chine, comme il l'a fait hier, est-ce qu'il s'invite ou est-ce qu'il a été invité?
C'est comme beaucoup de choses dans ce domaine, dans ce type de situation, c'est à la fois un souhait de l'OMS de ne pas réitérer les erreurs qui ont été faites lors de crises précédentes où le directeur ou la directrice générale restait à Genève et surveillait de loin. Donc certainement qu'il a eu, comme il l'avait fait pour Ebola, se rendre sur place, il a voulu marquer le coup. D'autre part, on ne débarque pas comme ça sans accord du pays hôte. Donc c'est probablement quelque chose qui s'est négocié, mais je pense que c'est déjà l'exemple sur Ebola montre que comme le docteur Tedros, comme on l'appelle, a plutôt opté pour une position. Je vais me rendre compte de la situation sur place.
En 2003, je crois, lors de la crise du SRAS, l'OMS s'était vu refuser l'accès à la province du Guangdong, qui était l'épicentre de l'épidémie. Même quand, à chaque fois, pour ce genre de crise, l'OMS doit convoquer des réunions de crise, mettre en place des réunions du comité d'urgence, est-ce que ce comité d'urgence peut être saisi, s'il ne l'est pas par les gouvernements eux-mêmes, est-ce qu'il peut être saisi par des médecins, par des ONG qui sont sur place comme Médecins du Monde et qui alertent sur un début d'épidémie ou sur un virus qui leur semble suspect?
Non, c'est une procédure qui reste interne à l'OMS et non pas, c'est pas un comité permanent, indépendant, qui serait une instance de recours. C'est vraiment quelque chose qui est à l'image de l'OMS. L'OMS, elle n'est que ce que les 193 États membres veulent en faire. Elle n'a que les moyens que les États lui donnent. Et d'ailleurs, il y a des financements privés importants, notamment de la Fondation Gates, précisément qui viennent combler ce que les États membres refusent de faire en dotant l'OMS d'un budget plus important.
Ils refusent de budget, oui.
Paul Benjamin. Il y a des cotisations obligatoires et il y a des cotisations facultatives qui sont donc qui dépendent de la bonne volonté. Et c'est vrai que les États membres n'ont pas voulu augmenter les cotisations obligatoires, se leur donner plus de moyens. Mais l'OMS, après la crise d'Ebola, où il y a vraiment une remise en question de son inaction, de son retard à réagir, a entrepris, il y a eu un audit, plusieurs audits, et qui a finalement abouti au fait de dire il faut que l'OMS soit plus préparée aux situations d'urgence, car c'est elle qui peut jouer ce rôle, et si elle ne l'est pas, eh bien, il faudra trouver autre chose. Bon, il y a quand même eu des progrès qui ont été accomplis, même si, encore une fois, il y a des lourdeurs, des pesanteurs, des lenteurs, comme on a pu le voir dans cette crise.
Pour un mot encore sur le budget, Paul Ben Ki-moon, en pleine crise Ebola que vous venez de citer, le budget de l'OMS était inférieur d'1 milliard de dollars ou d'euros à celui de l'exercice précédent. Et surtout, ce qui a posé problème, c'est que les pays membres fléchaient leur financement sur le thème de leur choix. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'il y a les financements obligatoires qui sont donc dans le budget global de l'OMS, mais toutes les contributions volontaires, que ce soit des contributions étatiques, publiques, ou bien que ce soit des contributions comme celles de la Fondation Gates ou d'autres acteurs qui sont privés, là, ce sont toujours des contributions fléchées. On donne une somme pour tel programme, au point que la précédente directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, avait déclaré « l'OMS fait ce pour quoi elle a de l'argent ».
Est-ce que d'ailleurs cet argent des États membres sert seulement à apporter des réponses d'urgence à des crises sanitaires comme celle qui est en train de aujourd'hui qui est en train de vivre la Chine et plusieurs pays affectés aujourd'hui, et ou est-ce qu'il sert aussi à améliorer les systèmes de santé et de soins dans les pays qui en ont le plus besoin, et ce même en dehors des périodes d'épidémie?
Alors il faut imaginer que l'OMS n'est pas une organisation qui est chargée des urgences comme première mission, c'est avant tout une organisation qui est normative. Elle doit dire, elle doit établir des listes de médicaments essentiels, de médicaments recommandés, des lignes de conduite pour par rapport à telle pathologie, et elle doit aider les États à améliorer leur système. Bon, donc on a quelque chose où l'urgence n'est pas la mission première de l'OMS. Et c'est vrai que les lourdeurs qu'elle avait, de toute façon, la rendaient inadaptée. Mais il ne faut pas penser que l'OMS a été créée juste pour faire face aux urgences. Ce sont plutôt les urgences qui ont toujours bousculé l'OMS et qui ont fait évoluer vers une institution qui a un rôle de pilote de la santé mondiale.
Alors quand ce comité d'urgence, quand l'OMS doit faire face à des situations d'urgence et donc que ce comité d'urgence se réunit pour décider ou pas de décréter l'urgence de santé publique de portée internationale, c'est la qualification exacte, qui sont ces experts qui se réunissent, dont on nous a dit la semaine dernière qu'ils étaient très divisés? Est-ce qu'ils sont tous médecins, scientifiques, ou est-ce qu'il y a aussi, question bête, mais des économistes, puisqu'apparemment est pris en compte aussi est pris en compte l'effet que pourrait avoir une telle mesure sur le commerce international?
Non, la composition, elle est publique, hein, elle figure sur le site de l'OMS pour ce comité qui est présidé par le français Didier Houssin. C'est un comité d'experts scientifiques, c'est-à-dire que de personnes qui sont à même de comprendre, d'analyser des données épidémiologiques. Donc c'est quand même cette dominante-là. Le paramètre économique, il est pris en compte parce que à l'OMS, et auprès de ces instances figurent des représentants des États, lesquels vont faire valoir éventuellement les considérants extra-médicaux pour faire prendre en compte les conséquences économiques, etc. Mais la logique fondamentale de ces structures, c'est l'analyse épidémiologique d'une situation.
Est-ce qu'on a déjà reproché à l'OMS d'en avoir trop fait? Parce qu'on se rappelle les moments où on a trouvé qu'elle était, si ce n'est laxiste, au moins un peu immobile et pas très réactive. Est-ce qu'on l'a déjà accusé d'en avoir trop fait? Est-ce qui expliquerait sa prudence aujourd'hui encore?
Je pense que sa prudence, c'est pas la crainte d'en faire trop, parce que de mémoire, c'est pas par là que l'OMS a pêché. Mais c'est plutôt... Les reproches qui ont été adressés à l'OMS par le passé, c'est soit essentiellement de ne pas avoir su réagir face à des crises, et d'autre part, ça a été éventuellement de dénoncer des influences qui avaient pesé sur des décisions, mais par exemple, les recommandations sur quelles sont les valeurs de la pression artérielle qui définissent l'hypertension artérielle. Et à l'époque où ces normes avaient été abaissées, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 15, 8, par exemple, on descendait à 14, etc. C'était des normes qui avaient été soupçonnées d'être un peu influencées par l'industrie pharmaceutique et les fabricants d'antihypertenseurs. Donc c'est plutôt de ce côté-là d'une suractivité que l'OMS avait pêché.
D'ailleurs, avec quel laboratoire travaille l'OMS? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des financements privés, la fondation Bill Gates notamment. À l'heure où on parle, est-ce que l'OMS est nécessairement en lien avec un ou plusieurs laboratoires privés? Enfin, comment se fait le choix de l'un au détriment de l'autre? Vous avez aussi, Paul Ben Ki-moon, travaillé sur la question des lobbies.
Oui. C'est-à-dire que, alors, faut s'entendre de quoi on parle quand on parle de laboratoire. Il y a évidemment deux types de laboratoires.
Bien sûr, public.
Dans une crise comme celle-là, il y a des laboratoires qui sont avant tout des laboratoires de virologie, qui vont étudier l'agent infectieux, la manière dont il se propage, sa virulence. Donc ça, ce sont des laboratoires publics, en général des laboratoires universitaires, à travers le monde, dans les l'équivalent des CHU dans les autres pays en France. Et puis il y a les industriels du médicament et du vaccin, qui sont donc les fabricants des produits médicaux qui vont être utilisés. Là, à ce stade, il y a évidemment des recherches qui ont redémarré sur le coronavirus pour tenter de mettre au point un vaccin, sachant que la mise au point d'un vaccin ne va pas se faire en 15 jours. On l'avait vu au moment de la pandémie grippale, alors que les industriels savent faire du vaccin contre la grippe depuis des décennies. Ça avait quand même pris du temps. Là, sur les coronavirus, pour lesquels il y a quelques vieux vaccins qui existent, notamment en médecine vétérinaire, il n'y a pas de vaccins qui ont été développés. À l'époque du SRAS, ça s'est arrêté au bout de quelques mois, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de recherche qui se soit développée au-delà. Avec le coronavirus du Moyen-Orient, il y a eu des débuts de recherche et des phases expérimentales sur lesquelles, évidemment, ce sera possible de construire. Mais en termes de vaccins, c'est pas le cas. Et pour les antiviraux, on a vu que ce ne sont pas ceux qu'on avait utilisés, comme par exemple contre la grippe, le Tamiflu, qui sont efficaces. Et là, pour l'instant, on utilise plutôt des antiviraux qui sont là, fabriqués par des laboratoires privés, par des génériques, et qui sont des médicaments qu'on utilise dans d'autres indications, notamment le VIH, etc.
Merci beaucoup, Paul Benkimoun. Et c'est vrai que pour l'instant, une des incertitudes des scientifiques de l'OMS, c'est de savoir si les personnes infectées par le coronavirus sont ou non contagieuses avant que de premiers symptômes n'apparaissent. Et c'est sur quoi ils travaillent en ce moment. Merci beaucoup, Paul Benkimoun, d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition « Huit semences » de Degas à Grunewald, sous le regard de l'artiste Francesco Vesoli. Huit semences a été un des critiques d'art les plus déterminants de son époque. Pionnier de la défense de la peinture moderne auprès du grand public, il a notamment fait découvrir les œuvres de Manet et Caillebotte. Il affichera ensuite un goût prononcé pour le symbolisme, Moreau, Redon, et pour le décadentisme avant de se convertir au catholicisme. Huit semences, critique d'art, jusqu'au 1er mars au Musée d'Orsay à Paris. Un partenariat France Culture. Chaque jour sur France Culture à 10h, prenons les chemins de la philosophie, Adèle Hanrett.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ?
Cette semaine, sur les chemins de l'architecture, d'un art archi-utile à celui qui se dit fabricant de concepts et nous en parlera, Jean Nouvel. Bâtir, habiter et penser avec Heidegger. Comment faire du neuf avec du vieux, nos regards tournés vers Notre-Dame de Paris. Vous avez dit architecture, les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous, pour le mardi, vous réfléchissez déjà aux activités du week-end et vous en avez une nouvelle à nous proposer pour votre
oui,
heure du jour.
Oui, si vous les avez épuisées toutes, si vous avez épuisé le clubbing, allez en boîte de nuit, le kayaking, bon ça je pense que vous avez compris, le voguing. Bon ça attention, c'est un mot trompeur, je vous propose d'aller voir sur internet à quoi ça ressemble. Bref, si vous avez épuisé tout ça, il y a mieux le batch cooking qui consiste à préparer le dimanche les plats pour la semaine, théoriquement en 2 heures, les 2 heures étant une hypothèse à peu près aussi réaliste qu'un plan de paix pour le Moyen-Orient. Donc vous allez, que dis-je, vous devez vous lancer dans le batch cooking, c'est le nouvel impératif du parenting. Élever des enfants, quoi. Et cela dans le but de ne pas les alimenter uniquement à l'ultra-process food, une nourriture riche en graisse, sel et autres additifs. Vous devez vous lancer dans le batch cooking parce que, comme cela a été dit par de nombreux anthropologues, nous sommes passés d'une civilisation de la honte à une civilisation de la culpabilité, les deux pouvant d'ailleurs aller de pair, puisque nourrir votre progéniture de croque-monsieur Carrefour, c'est conjuguer à la fois la honte et la culpabilité. Quant au cordon bleu Monique Ranou, la marque propre d'Intermarché, j'imagine qu'il faut être l'un des Thénardier pour en servir à ses enfants. Donc, vous devez vous lancer dans le batch cooking et préparer en 2 heures une chorba aux légumes, un riz sauté aux cranberries et une croziflette au minster. D'autres choses encore, je passe sur l'impossibilité structurelle de donner à manger quoi que ce soit au minster à des moins de 20 ans. Je ne m'attarde pas sur l'impossibilité tout aussi structurelle de trouver des cranberries le dimanche à 17h. Reste donc la chorba aux légumes qui, bien évidemment, n'a rien à voir avec sa réplique déshydratée que vous pouvez servir à vos enfants si vous ne les aimez pas, bien sûr. Et dans la chorba, ce qui est bien, c'est qu'il y a des pois chiches, ça se trouve facilement. J'ai même facilement pu en préparer 1,5 kg. Je me permettrai donc de vous reparler du batch cooking, Julie, dans une semaine, quand mes enfants auront ingurgité des pois chiches chaque soir de la semaine grâce au batch cooking.
Les pauvres.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Daesh menace de s'en prendre à Israël cette nuit, mais au fait, où en est l'organisation terroriste et que sont devenus les Français partis pour faire la guerre auprès de Daesh? On en parle en compagnie d'un sociologue Hugo Micheron et d'une avocate Marie Dauzé dès 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.